Chers amis, Hachem Alechem Tehiyu, les Orechem Tovim et Shanim Nehemim. Nous sommes Parashat Vaera, nous allons, dans notre Parasha, analyser cet épisode où Sarah rigole. Et on va le lui reprocher. Alors, analysons les versets. Les anges sont restaurés. Après avoir mangé, il demande à Abraham, où est Sarah ton épouse? Aïe Sarah Ishtecha. Et il leur répondit, Iné Baoel. Il répondit là, la voici dans la tente. Alors l'ange lui dit, Shovashuv Elecha, je reviendrai vers toi à pareille époque, Kayet Haya. Veine ben le Sarah Ishtecha. Et ton épouse Sarah aura un fils. Alors Sarah écoutait à l'entrée de la tente, Vesara Shomaat Peta Haoel. C'est-à-dire que l'ange donnait le dos, elle était à la porte, et l'ange lui donnait le dos. Abraham et Sarah étaient âgés, ils étaient avancés dans les jours. Abraham et Sarah, Zekenim, Bayim, Bayamim. On dit le pasuk, Hadaliyot, les Sarah, Orach, Kanashim. Donc c'est-à-dire que Sarah n'avait plus le flux et les menstruations, comme les femmes. Sarah rigola. Batitzhak, Sarah, Bekirba. Sarah rigola en elle-même. Les morts. Comme pour dire. Ahare Beloti Aitali Edna Vadoni Zaken. Après m'être flétri, aurais-je un nouveau temps, alors que mon époux a vieilli? A Kadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Lamaze Zahaka Sarah les morts. Pourquoi donc Sarah a-t-elle rigolé pour dire, Afumna meled va nizakanti, est-ce que je pourrais enfanter alors que j'ai vieilli? Ça, c'est les psukim. Alors, ici, nous avons plusieurs questions qui se posent. La première, pour quelle raison Sarah aurait-elle dit qu'Abraham était vieux? Qu'est-ce que ça signifie qu'il n'est plus en état d'enfanter? Alors qu'en réalité, c'est elle-même qui est vieille, stérile, et non pas lui, puisque lui déjà a engendré Ishmaël. Il semble qu'elle projette sur lui toutes ses propres carences, tous ses manques et ses défauts. Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi le verset dit que Sarah n'avait plus de menstruation? Et il précise, « Orach kanashim », des menstruations comme les femmes. Le flux comme les femmes. Il était suffisant de dire qu'elle n'avait plus de flux, qu'elle n'avait plus de règles. On sait que les règles, il n'y a que les femmes qui les ont. Pourquoi préciser? Il était suffisant de dire, Hadaliot le Sarah, Orach. Ça veut dire Orach Kanashim. De plus, quel est le sens du préfixe? Il y a un préfixe, le kaf. C'est comme les femmes. Littéralement, il dit, elle n'avait plus de règles comme les femmes. N'était-il pas juste de dire des femmes? Hadaliot le Sarah, Orach Kanashim. Troisième question. Sarah aurait dit, va donner Zaken. Alors qu'en rapportant ses propos à Abraham, à Kadosh Baruch Hu, il les modifie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va ni Zakanti. Moi, j'ai vieilli. Elle dit pas que lui, il a vieilli. Enfin, il répète pas que lui, elle a dit que lui, il a vieilli. Alors qu'il répète que c'est elle qui a vieilli. En vérité, elle n'a pas dit cela. Cette modification pose problème, Mochachamim, qui sont alors dans l'obligation de remédier à cela. Ils disent que de là est la référence, Mikand, qu'il est permis de maquiller la vérité, de pas dire toute la vérité, ou de la changer, ou de la ranger, afin d'éviter les chalambaïs, d'éviter les conflits conjugaux. Cette réponse, Béhémet, elle est surprenante. Est-il acceptable d'attribuer à Kadosh Baruch Hu un mensonge? Combien même serait-ce pour la bonne cause? N'en est-il pas moins un mensonge pour autant? Notre étonnement est encore plus grand. Tant ces paroles placées dans la bouche de Sarah n'ont été en fait qu'une réflexion de ses pensées. Parce qu'il y a marqué, Bekirba. Batishak Sarah Bekirba. Elle a rigolé en elle. Elle a pas rigolé en public. C'est comme si que, peut-être que rien n'était apparent. De cette rigolade. C'est en elle qu'elle a rigolé. Alors, quelle nécessité pousse à Kadosh Baruch Hu à les dévoiler à Avraham? N'était-il pas préférable de garder la chose secrète? Et après, alors comme il a dit, comme il a dévoilé à Avraham que Sarah, elle a rigolé, alors il change. Il dit, elle a dit, va donner Zaken, et lui, il répète qu'elle, elle a vieilli. Pourquoi avoir travesti la vérité? Parce que tu étais obligé, toi, Hachem, de dévoiler. Il fallait pas dévoiler. Si tu avais pas dévoilé, toi, Kadosh Baruch Hu, les pensées, les réflexions de Sarah, tu aurais pas été dans l'obligation de les transformer, de les travestir et de les changer. À l'arrivée des hôtes, quand les invités, ils arrivent, Avraham s'empresse. Il dit à Sarah de s'activer. Mahari! Ben, il lui dit, dépêche-toi, Olushi, Olushi, Shoshim, Kemar Solet, Olushi, va assi ou gosse. Il lui dit, prends de la farine et vas-y, fais du pain. Cependant, quand il dresse la table et qu'il place devant eux les mets, il omet de présenter le pain. Ben, il y a marqué qu'il a pris le lait, la crème, le lait, etc. Mais il n'y a pas marqué, et le Ben Abakar Asharasa, il n'y a pas marqué qu'il a apporté du pain. Alors on dit « Rachamim, la Gemara de Mamsi » elle dit « Cet oubli est justifié par le fait qu'à cet instant précis, Sarah a eu ses règles et que le pain était alors impur. C'est donc bien avant l'annonce par les anges que le flux des règles lui est revenu. Elle constate donc par le changement qui s'opère en son corps, une transformation, elle ressent cette transformation, un état de jouvence, le Midrash dit qu'elle est revenue dans sa jeunesse. » Elle ressent ça en elle. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Mais en observant, elle regarde son époux, elle voit Avraham, il reste vieux lui. Elle ne remarque rien, son état n'a pas changé, c'est le même. Le Zohar dit, ils étaient vieux. Avraham, Sarah, Zekrinim, Bayim, Bayamim. Il dit le Zohar, c'est-à-dire qu'ils portaient leurs jours. Ça veut dire, un, il avait 100 ans, l'autre, il avait 90 ans. On les voyait, ils avaient un de 100 ans et un de 90 ans. Sarah a pris à marquer Hadaliot les Sarah. Sarah n'avait plus de règles. Et à cet instant, nous dit le soir, elle observe en elle un renouveau, un temps de jeunesse qui reprend en elle. C'est pour cette raison qu'elle dit que son époux est vieux. Car, pour lui, aucune transformation n'est visible. A priori, les Chahora, il ne pourra pas enfanter. Ça, c'est ce que dit le soir. Alors, quand Hachem commande à Avraham d'accomplir la Bet Mila, il lui promet que Sarah lui donnera un fils. Et là, il dit, Avraham est tombé sur sa face. Il a rigolé. Il s'est exclamé, ah, les ben mea shana, il est. Et Sarah, batishim shana, il est. Est-ce que lui, il va engendrer, il a 100 ans et sa femme, elle a 90 ans? Là aussi, il a rigolé. Nous remarquons que ce n'est pas uniquement Sarah qui rit de cette nouvelle, mais elle a été précédée par Avraham. Alors les sages qui s'étonnent, il est répondu par la nuance que fait le Targum dans sa traduction du mot rire. Pour Avraham, il en kélos traduit le rire par une réjouissance, il est heureux d'apprendre cela. Alors que pour Sarah, il emploie le terme de moquerie, comme Rashi le rapporte sur place. Le Rahim explique que Sarah n'a été certaine d'enfanter que lorsqu'elle constate les transformations physiques qui se produisent en elle. Ce, les Chahora, a priori, ça traduit un manque d'émouna, un manque de foi chez elle. Alors que pour Avraham, la certitude que Sarah lui donnerait un fils est une évidence dès l'instant où Akadosh Baruch Hu lui en fait la promesse. On peut alors affirmer que c'est là la raison pour laquelle Avraham ne subit aucun changement. Pourquoi il n'y a pas de transformation physique chez Avraham? Car pour lui, cela n'est pas nécessaire pour affirmer et établir sa émouna, sa conviction. Alors que pour Sarah, sans les transformations et les changements de son corps, les doutes persistent dans sa tête. Alors nous pouvons dire qu'à présent, elle donne foi à la promesse. Cette foi et cette certitude ne concernent pas uniquement la période postérieure aux transformations physiques. Ça veut dire après que les anges sont venus et qu'elle a vu qu'elle a à nouveau les règles, etc. Mais à ce moment-là, comme elle voit qu'elle a une transformation en elle, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle dit, ah, mais même avant, j'aurais pu. Même avant, même sans les transformations, j'aurais pu avoir des enfants. Pourquoi ai-je besoin, elle se dit, pourquoi ai-je besoin d'avoir subi en moi les transformations et le renouveau, les jours de comme si elle est devenue jeune, pour être sûr que la promesse qu'Hachem a faite, elle va se réaliser. Voilà ça, si c'est comme ça, même avant. Elle prend conscience qu'elle aurait pu avoir, elle aurait pu... C'est rétroactivement, elle a la Emouna rétroactive. Donc ça établit, ça donne une force à sa Emouna. De même que les changements qui se produisent en elle lui confirment la promesse et affermissent sa certitude d'enfanter. Ainsi, elle est certaine que même avant ces changements, elle aurait pu sans aucun doute donner le jour à son fils. C'est pour cela qu'elle dit « Mon mari est vieux ». Ce qui signifie que lui, il est vieux, ça veut dire quoi? Il est resté vieux. Il n'a pas eu besoin de subir un rajeunissement. Donc, il y a, pourquoi? Parce que lui, il a une certitude forte, établie. Dans tous les cas, de toute façon, il est certain de mettre que la promesse d'Hachem se réalise. Donc, il n'a pas besoin d'avoir une transformation. Pour lui, ce n'est pas indispensable. Tandis que pour elle, c'est indispensable. Elle prend alors conscience de la qualité de la Emouna que Avraham il a, qui dépasse de très loin sa propre foi. Ainsi, nous comprenons enfin pourquoi Hachem rapporte la réflexion de Sarah à Avraham. Il lui dévoile qu'avant son rajeunissement, elle avait des doutes sur ses capacités à enfanter. Mais maintenant que j'ai rajeuni, cela prouve que depuis toujours, j'aurais pu sans difficulté enfanter. Quand elle dit « mon époux est vieux » en elle, cela signifie que sa foi en la promesse est solide depuis le premier jour. Alors que pour elle, ce n'est que maintenant qu'elle prend la conscience de la certitude qu'elle peut avoir, que même en étant restée vieille, elle aurait quand même enfanté. Hachem rapporte cela en modifiant ses paroles, car cette modification est le sens vrai des paroles de Sarah, de sorte qu'il n'y a aucune transformation, ça reste une vérité, il n'y a aucun mensonge, aucune erreur dans les paroles de la Torah étant une vérité absolue. Rabbeinu Ha'ari, il est rapporté dans les écrits de Rabbeinu Ha'ari, alav shalom, qu'Avraham et Sarah sont venus en ce monde pour réparer la faute originelle. Or, l'un étant le Gilgul d'Avraham, ou le Tikkun, un étant le Tikkun d'Adam, et l'autre étant le Tikkun et le Gilgul de Hava. Alors, Hava, qu'est-ce qu'elle avait dit? Alors, quand Hachem, il reproche à Hava la faute, il lui dit le serpent, Anahash Ishiani. Ce terme Ishiani, il est formé, c'est-à-dire le mot Ishiani, c'est-à-dire le serpent, il m'a incité, il m'a entraîné à fauter. Alors, le mot Ishiani est formé de Yesh Ani. Le He est un préfixe qui ne fait pas partie de la racine du mot. Donc, ça veut dire quoi? Yesh Ani. J'ai le je et le moi. En vérité, nous dit le Rabbi Noari, qu'il y a deux noms de la création. Il y a le Shem Shaddai, Shin Dalet Yod. Alors, quand on enlève le Dalet de Shin Dalet Yod, il reste Yesh. Et le deuxième nom, c'est Aleph, Ado, plus loin de l'ail. Aleph, Dalet, Nun Yod. Si on enlève le Dalet là-bas aussi, il reste Ani. Alors la faute, qu'est-ce qu'elle fait la faute? Quand l'homme faute, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber les deux Dalets. La faute cause le détachement des deux Dalets et dans leur chute. Leur chute produit que le mot Ishiani, il devient Yesh Ani. Le moi et le je de la personne. À la place des noms d'Akadosh Baruch Hu, l'homme prend la place laissée vacante par Hachem. Parce que quand l'homme il faute, Akadosh Baruch Hu, il s'en va. Comme dit le Midrash, il y a sept cieux, et au fur et à mesure de la faute, il s'éloigne, il monte au plus haut cieux. Donc le monde est abandonné à lui-même. Qu'est-ce qui prend la place? C'est l'homme. Il dit, Yesh, Ani, c'est moi maintenant le patron. Il n'y a que moi. L'homme, par sa transgression, chasse Hachem de son monde et en prend possession. Que reste-t-il en ce monde quand le Seigneur s'en retire? L'illusion du pouvoir de l'homme, c'est le je-moi. En tombant, les deux dalettes, ils se rattachent. Ils se soudent parce qu'ils ont peur de s'éparpiller. Donc, quand on prend deux dalettes et on les attache, ils forment un même sophite, un même fermé. Ce même-là fait allusion à Mitzrayim. C'est la dernière lettre de Mitzrayim. Il y a marqué que Mitzrayim, on pouvait pas en sortir. C'est une prison. C'est un truc où oppression totale, il était impossible de s'en sortir. C'est une prison physique et une prison spirituelle. Et pire qu'une prison, c'est des metsarim. C'est-à-dire que c'est comme si qu'on est entre les deux étaux, entre les deux mâchoires d'un étau qui se referme, ça nous écraser. On n'a plus d'existence. On n'a plus d'existence physique et on n'a plus d'existence spirituelle. C'est le même. C'est la réduction. La réduction de l'être à sa plus petite expression. Il n'a plus d'existence pour lui-même, il n'a plus de rapport avec Dieu. Pour en sortir, il faut écrire il faut que Mitzrayim, il devient Mitzrayma. Alors, à la place de la dernière lettre, à même Sophie fermée, il y a un hé qui marque l'ouverture et la possibilité de s'en sortir par le bas, par le haut, etc. Le hé, c'est la lettre qui symbolise le monde ouvert de la tchouva, de la possibilité de réparer, la possibilité de revenir, etc. Avraham entreprend de rétablir l'ordre qui prévalait. C'est ça le travail que Avraham va produire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il chasse le désordre causé par la faute. Il s'affaire à rendre à Hachem la gouvernance de son monde. Il déclare, c'est ce qu'il dit, le premier qui a proclamé que Dieu, il est le maître de ce monde, c'est à lui que ça appartient, c'est Avraham. Donc il a créé Adon. Il déclare et proclame que Akadosh Baruch Hu, il est l'unique maître de ce monde. Évidemment, comprenant qu'il ne s'agit pas que de déclarations, il ne s'agit pas d'écrire des feuilles et des théories, c'est pas juste une théorie orale, c'est une pratique de quotidien, de chaque instant. Avraham vit cela et il éduque les autres à comprendre que le seul maître de la vie, du monde, de quel monde? Pas le monde de Dieu, le monde de l'homme. Parce que Dieu, c'est sûr que Dieu, il est maître de son monde à lui. Mais est-ce que Dieu, il est maître de mon monde, de mon petit domaine, de là où moi j'évolue, de ma volonté, de mon petit monde, de mes petites affaires, de mes midotes, de mes désirata, de mes ambitions. Est-ce que Dieu, il est maître de mon être, de moi-même? C'est la question. Et c'est ça ce que Abraham, il va lui donner le gouvernail de commandement. C'est Hachem qui décide. Dans quoi il décide? Non pas dans le grand monde, mais dans son monde à lui. C'est à ce moment-là, Avraham, il va annuler totalement sa propre volonté et pour ne faire que la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, Avraham, il est arrivé à un degré tel qu'il n'a plus de force de décision. C'est pas lui qui décide. Chaque chose, pour le moindre détail de sa vie, pour les moindres choses, il veut boire un verre d'eau ou il veut boire, on lui propose, tu veux boire Avraham un café ou un thé, par exemple, alors chacun... Dans sa vie au quotidien, il va choisir ce qu'il préfère. Mais Avraham, il dit non, moi je préfère peut-être le café, mais peut-être que Akadosh Baruch Hu, il préfère que je bois du thé. Alors il va réfléchir. Qu'est-ce que Hachem réclame de moi? Dans chaque petit détail de sa vie, il ne fait pas selon sa, il a pas de volonté propre. Dans le détail du quotidien, non pas seulement quand il est à la synagogue ou quand il fait la tfila, ou quand il fait les mitzvot, dans le détail, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas seulement à la synagogue ou au Beit HaMidrash, Akadosh Baruch Hu, il est dans la vie au quotidien, quand on boit son café et quand on se promène, quand on va aller à droite ou à gauche. Peu importe, à chaque instant, il réfléchit, qu'est-ce que Hachem il veut de moi? Est-ce que c'est Hachem qui dirige ma vie ou c'est moi qui dirige? J'ai mis Hachem un peu de côté. C'est ça le pshat que Akadosh Baruch Hu, Avraham, il a appelé Akadosh Baruch Hu Adon. C'est exactement la réparation de la faute de Adam. Adam, au moment où il décide de manger le fruit, il a pris sa propre décision. Et à cet instant-là, il ne s'est pas dit qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de moi. Et c'est ça le sens profond, réel de la Avera. L'homme, il se substitue, il décide de sa vie. Alors qu'il aurait dû méditer, réfléchir, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien ce que je fais? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai que je suis dans une situation où je suis presque obligé de manger? Mais Béhémet, est-ce que Hachem il veut que je mange? Ou c'est moi qui veux que je mange? Est-ce que manger, faire ce que je fais, c'est Hachem qui veut que je le fasse? Ou bien c'est Béhémet, c'est moi qui veux? Et qu'à Kadosh Baruch Hu, je l'ai mis un peu de côté à ce moment-là. Ça, c'est le biour de la démarche de Avraham, Kera O Adon. En effet, C'est ça donner le gouvernail de commandement, de direction à Akadosh Baruch Hu. Ce qui signifie que la vie de chacun d'entre nous, dans ses moindres détails du quotidien, doit être dirigée uniquement par la volonté d'Hachem, Retzon Hachem uniquement. En effet, comment on arrive à cela? Quel est le pshat de cela? En effet, si les hommes ils adoptent la vertu essentielle, il y a une mida qui est incontournable pour réussir, c'est l'humilité. Qu'ils reconnaissent leur minuscule dimension, leur fragilité, qu'est-ce qu'ils sont rien. Et surtout qu'ils agissent en conséquence. On peut reconnaître que Hachem il est grand, que nous on est petit, qu'on est rien, mais malgré tout on continue à faire ce qu'on a envie. C'est alors qu'Akadosh Baruch Hu, si on prend conscience de cela, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il réintègre le monde. Pas le grand monde, mais notre monde. On fait une place à Hachem dans notre monde. Chacun, il a son monde. Chacun, il a son domaine d'évolution, là où il évolue. Là où il essaie de s'épanouir. Là, il se construit sa bulle. Est-ce que dans cette bulle-là, qu'on appelle le monde de chaque individu, est-ce que le patron, le gouvernant de ce monde-là, de ce petit monde, microcosme, est-ce que c'est Hachem ou toi-même, Ben Adam? En vérité, c'est un vaste programme pour chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous a l'obligation de mettre ce principe et ce programme en pratique. C'est le sens bichlal de la Torah et des mitzvot. Toute l'action de Avram et de Sarah n'est que la diffusion de ce programme. Alors comment ils y parviennent? Comment ils font pour avoir des adeptes? Quels sont les hommes qui vont? Comment ils font pour convaincre les autres de venir les rejoindre dans cette entreprise? Eh bien, c'est très simple. Mamash, c'est très simple. Faut pas aller chercher loin. Ils donnent l'exemple. En se mettant eux-mêmes au service de tous, sans rien réclamer en retour. C'est la base de la réussite dans l'éducation. Comment on peut influencer les autres en donnant l'exemple? L'exemple de quoi? Que Hachem, il est le maître du monde. Alors, Hachem, il est pas le maître. Je te dis pas à toi, Hachem, il est le maître du monde. Il faut que chaque chose que tu fais, tu réfléchisses. J'ai même pas besoin de le dire. Le gars, il observe Avraham, il n'a même pas besoin de parler. Le gars, il observe Avraham et il voit comment il se comporte. Ah, l'humilité. Alors, l'humilité, Avraham, il était très riche, milliardaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il court dans le désert et il voit un bédouin, une caravane qui passe. Il y a des bédouins, des gens qui traversent le désert. Il lui dit, où tu vas? Comment tu fais? Tu as mangé? Tu as bu? Tu t'es lavé? Tu veux t'asseoir? Tu veux te reposer? Il lui dit, non, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. Il lui dit, voilà, tu vois là-bas l'hôtel, il y a un hôtel 5 étoiles, un palace. Il dit, je t'invite. Il dit, mais quand, j'ai pas de carte bleue, j'ai pas d'argent, je peux pas rentrer là-bas. Il dit, c'est à moi. Viens, je t'invite. Avraham, il prend ce bédouin là dans le désert, il le rentre chez lui. Hôtel, palace, 5 étoiles. Il le sert, il le dit, alors, le bédouin, il voit ce type-là. Il dit, mais de quel asile il s'est sauvé? C'est pas possible, ça existe, une chose pareille? Il dit, c'est ça, Avraham! Avraham, il a du bien, il sait pas quoi faire avec, il le partage avec les passants, les gens qui passent, qu'ils le connaissent même pas. Donc il installe, le gars, il le met dans une chambre, une suite, il prend sa douche, il s'installe à table. Qui est-ce que tu veux manger? Voilà, il y a la carte. Qu'est-ce que tu veux manger? Qui est le serveur? C'est Avraham. C'est Avraham qui vient, qui le sert, qui l'installe, qui fait tout. Le gars, il voit ce type-là, extraordinaire, qui possède tout ça et qui s'occupe de lui. Il dit, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Un homme, c'est ça la modestie, c'est ça l'humilité. C'est parce que c'est ça que Akash Bohu, il veut. C'est ça que Avraham a innové. Le fait non seulement de faire du chesed, c'est pas il va donner 100 euros à un type qui passe par là. C'est qu'il va lui donner une partie de lui-même. Il va lui donner une partie de sa maison. Il va lui se mettre sur le côté, il va laisser la place. Et non seulement ça, il le sert, il le présente, il l'arrange, il le place, il l'habille, il le sert, il est à son service, comme il est marqué dans la paracha. Ve'ohamed, allez, va'yochel, lui, il était là, debout, et eux, ils mangeaient. Il les a installés, lui, il était debout. Pourquoi debout? Debout parce qu'il est à son service, c'est le serveur. C'est celui qui verse. Tu as soif, voilà, je te verse le verre. Tu as faim, voilà, je t'apporte, je te place, etc. Donc, il est à leur service. Quand quelqu'un voit ça, on comprend que c'est ça, la Torah. La midot, la réalité des midot du quotidien. Et quoi? Il demande rien. Il faut payer? Non, c'est gratuit. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, non, j'ai pas besoin. La Torah, c'est gratuit. Je réclame rien. Ça, c'est le yesod. que l'on doit montrer, donner comme exemple. Si on fait ça, alors Akadosh Baruch Hu, il revient immédiatement. Immédiatement, il revient dans son monde. Mais non, quand Hava, elle faute, elle introduit, a marqué qu'à cause de la faute, elle a introduit le concept de la mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire la mort? La mort, ça veut dire que déjà, au lieu de vivre l'éternité, Adam Harishon, il va mourir. Et deuxièmement, ça c'est une mort physique que l'on ne peut... à laquelle on ne peut échapper après la faute d'Adam Harishon. Et d'autre part, c'est comme le même final de Mitzrayim, c'est la réduction des flux. Akadosh Baruch Hu, il octroie avec une abondance extraordinaire. Quand quelqu'un prend les flux et les arrête à sa seule personne, donc il a mis une coupure, donc les flux... Combien un homme il peut? Akadosh Baruch Hu, il donne pour nourrir des milliards de personnes. Et lui, il prend. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend combien tu peux consommer? Combien tu peux posséder? Donc, tu as réduit les flux à ta petite personne. Tu as réduit, c'est ça, le concept de mort. C'est le concept d'arrêter les flux. En fautant, c'est ça ce que Chava, elle a introduit. Hachem octroie les flux, comme il y a marqué dans les Sfarim. Il diffuse les flux, les énergies de vie, la puissance, etc. L'amplitude extraordinaire de ces flux, pour que les créatures elles-mêmes récupèrent ça et diffusent. Alors quand plus on diffuse, et plus les flux vont être abondants. Et la vie, elle va se perpétuer. La transgression est un acte d'égoïsme, réducteur, en fautant. Pourquoi? Parce que l'homme, il faute. Quelqu'un, il fait une avéra, mais il sait que Kadosh Baruch Hu, il donne à manger au monde. Alors, si tu fais une avéra, au moment de la avéra, celui qui faute, il est conscient de tout ce qu'il y a autour, de toute la Torah, etc. Il est conscient. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Là, à l'instant précis, c'est ma volonté, mon plaisir, ce que je veux, moi, c'est mon moi qui passe avant tout le reste. Donc, il se désintéresse de l'intérêt de Dieu et le projet divin et l'intérêt des hommes. Peu importe ce qui arrive, après moi, comme il dit l'autre, après moi le déluge. Ça, c'est un acte d'égoïsme. C'est ça que le Zohar dit. Et l'égoïsme, il peut se trouver aussi dans la tfila. Et le Zohar dit que le jour de Rosh Hashanah de Kippour, la synagogue, elle est pleine des chiens qui aboient. Il dit, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Les gens, ils ne pensent qu'à eux, même dans la tfila. Au lieu de parler global, que Dieu, il se réalise, que la gouvernance de Dieu, elle se réalise, que la volonté de Dieu, ça, il pense qu'à lui. Alors sur ça, il dit, c'est comme des chiens qui aboient. La première mitzvah que Akadosh Baruch Hu, il donne à Adam, c'est d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça. Olam hesed yibaneh. Akadosh Baruch Hu, il a donné la vie. Il a donné la vie à un homme, mais il n'a pas créé l'homme uniquement. Il a créé l'homme, après de l'homme, il a fait la femme. Et après de l'homme et de la femme, il a fait les enfants. Et après, etc. C'est-à-dire que il n'y a pas qu'un seul récipiendaire de la bracha, de la vie de Dieu. Il y a un qui reçoit et qui doit aller au-delà, transmettre au-delà. C'est ça la notion de bracha, c'est que le flux de bénédiction, il va et il dépasse. Il va au-delà. Si l'homme, il accapare le flux et il le garde pour lui, alors il ressemble à la mer morte. Pourquoi la mer, elle est morte? La mer salée, qui s'appelle Yamamela, pourquoi elle est appelée Yamamavet, la mer morte? Parce que tout ce qu'elle reçoit, elle le garde. Alors que le lac du Tibériade, il est appelé la mer de vie, elle est vivante, comme sur le Kinor David, Yam Kineret, comme la harpe de David qui chantait, qui faisait de la musique d'elle-même. C'est parce que tout ce qu'elle reçoit, elle le renvoie. Elle ne garde pas ce qu'elle reçoit. Elle le transmet. Elle passe à l'autre. C'est le cycle de la vie qui se perpétue. C'est ça le concept même de la mitzvah d'avoir des enfants. Parce que si l'homme, il réfléchit un instant, qu'est-ce que ça veut dire avoir des enfants? C'est un fardeau, une charge au quotidien, un souci perpétuel. Il peut plus vivre, il vit plus pour lui, il vit pour ses enfants. Ah, mais quel intérêt j'ai? Si je pense à moi, je peux pas avoir des enfants. Non, alors c'est ça le pshat. Le pshat, il est que quand tu fais des enfants de manière inconsciente, tu perpétues la vie. Donc toi, tu as reçu la vie. Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé de toi, il t'a donné la vie. Maintenant, toi-même, cette vie-là que tu as eue, tu vas la partager. Tu vas t'occuper de l'autre à qui tu donnes la vie. Jour et nuit, tu vas t'occuper de lui. C'est Abraham qui est au service des autres. C'est le Hesed, c'est ça le principe du Hesed. C'est le fondamental, la raison fondamentale de la création. C'est le projet divin qui se réalise. Abraham et Sarah s'inscrivent dans la réparation de la vie qui a été réduite par la faute. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent naturellement enfanter. Ils doivent auparavant réparer la faute originelle. C'est la question qui se pose à eux et de savoir s'ils ont réussi la mission qui est la leur ou pas. Ça, c'est la question que chacun d'entre nous se pose. Grande question qui se pose à chacun d'entre nous. Ah, quelqu'un, il arrive à un certain âge, il dit, on sait pas quel jour on part. Est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai rempli? Est-ce que j'ai réalisé ce pourquoi que je me fous de ma vie ici? C'est une vraie question. Pourtant, peut-on y répondre? Nous, on sait pas y répondre. Mais Abraham, avec nous, il sait y répondre. Comment va-t-il y répondre? Il dit, comment Abraham et Sarah vont-ils savoir s'ils ont parvenu? Alors, c'est ce qu'ils disent nos maîtres. Rabotez-nous, ils disent que les avots, Abraham et Sarah, ils étaient stériles. Mais en plus, pire que stériles, ils étaient tum-tum, la Gemara dit. Ça veut dire qu'à Sarah, la Gemara dit qu'elle était aïlonite. Ça veut dire qu'elle avait un corps d'homme. Ça veut dire que l'homme, il a 248 membres et la femme, 252. Elle a 4 membres supplémentaires qui sont la matrice et les portes de la... Enfin, les portes de le col de l'utérus. Elle n'avait pas ces 4-là. Donc, elle était comme un homme. Donc, elle peut pas enfanter. Pourquoi? Parce qu'avant d'enfanter, il faut qu'elle répare la faute. Alors, comment elle va savoir le jour? Alors, Sarah avait des doutes. C'est les deux, on appelle ça tirim, mais de la tote. J'étais tirim, j'étais de la tote. C'est quoi les deux de la tote? Les autres, c'est le col de l'utérus. C'est quoi ça? C'est les deux dalettes qui sont tombées. Adam Arishon, quand il a fauté, la femme, elle a dit, Ishiani, Anahash Ishiani, il a fait tomber le dalette de Chakai, Shin Dalet Yud, et il a fait tomber le dalette de Aleph Dalet Nun Yud. Donc il reste Ani Yesh, Yesh Ani. Les deux dalettes, ils sont où? Ils sont dans la matrice de la... C'est d'ailleurs le même. Le même, c'est ressemble à ce Rehem. Il ressemble à la matrice dans laquelle se forme, va se développer l'embryon. C'est les deux portes, c'est les deux dalettes. Alors, tant qu'elle n'a pas ces deux dalettes-là, elle ne peut pas enfanter. Comment, à quelles conditions elle peut les avoir? À la condition d'avoir rempli sa mission. Ça, c'est le Yesod. C'est pour ça que les Avot, ils étaient à Karim. Ils étaient à Karim et Tumtim, Tumtumim. Ils étaient tum tum, la Gemara dans les Bamot. Elle dit, Sarah, elle était aïlonite. Elle avait un corps d'homme. Alors, Sarah, elle avait des doutes. Sur ses capacités à enfanter. Non pas qu'elle manque de émouna, de conviction, elle croit pas ce qu'Hachem, il a dit. Et tout comme Abraham, elle avait une émouna, toute épreuve. Mais alors, pourquoi n'a-t-elle pas cru qu'elle pouvait enfanter? Pour quelle raison avait-elle besoin de constater les transformations de son corps? Et le rajeunissement et les flux nouveaux qui l'ont pris pour croire qu'elle peut avoir un fils. Et bien sûr qu'elle ne remettait pas en question la parole d'Hachem et qu'elle ne doutait pas que la promesse faite. Comme on l'a dit précédemment, la naissance de Yitzhak n'est rien d'autre que la preuve concrète que Sarah et Abraham sont parvenus à réparer la faute de Adam et de Hava. Alors Sarah, elle savait que Hachem pouvait lui octroyer, lui donner un enfant. Mais elle voulait pas un enfant gratuit. Elle voulait avoir la preuve certaine d'avoir réparé la faute d'Adam, de Hava. Et là réside le doute de Sarah, qui dans son immense humilité avait d'énormes doutes sur sa propre capacité à réaliser ce que Hava avait détérioré. Hakadosh Baruch Hu, il peut lui donner un enfant, même si le but n'est pas atteint, le but fixé n'est pas atteint. Ce à quoi elle aspirait, c'était d'avoir réussi à remplir son rôle parfaitement. Elle en doutait jusqu'au moment où elle constate que son corps se transforme. C'est alors qu'elle se réjouit et se dit qu'elle y est parvenue. À ce moment-là, elle a dit, va Adoni Zaken. C'est-à-dire qu'elle, elle a vu à travers le Adoni Zaken que lui, il est resté Zaken. Elle a vu par sa transformation que elle avait réussi son travail. Et que lui aussi avait réussi. C'est cela qu'Hachem raconte à Abraham. Il lui dévoile les réflexions secrètes de Sarah. Et pourquoi? De manière à ce qu'Abraham il prenne entière conscience, pleinement conscience de la grandeur de Sarah. C'est pour ça, quand il va faire l'oraison funèbre dans Parashat Hayesara, il y a marqué dans le Midrash, il va dire le Eshet Chayil. le fameux Chétraïl, quel est cet homme comblé qui trouvera cette femme vertueuse? Alors on dit, Chétraïl mimsa, verahok, mipini, micha, c'est introuvable, c'est-à-dire c'est impossible. Comme si c'est du domaine de l'impossible. Il dit oui, c'est vrai. En effet, la femme que l'on épouse n'est pas encore qualifiée de vertueuse. Elle n'est pas au départ vertueuse. C'est par la vie commune et le travail accompli qu'elle le deviendra. C'est ce qui s'applique parfaitement à Sarah. C'est ça le biour de Sarah. C'est que au départ, elle devait aller, et quand elle, à la fin, elle a 90 ans, elle a enfanté, elle a vu qu'elle a réussi à réparer ce que Hava a fait. Qui est-ce qui est capable de dire ce Yeshetraïl? Il y a, et donc ça s'applique parfaitement à Sarah, et qui a le droit de déclarer, ne peut être, il peut pas être quelqu'un d'autre que Abraham. Donc Abraham, il va déclarer que sa femme, celle qui est en devenir, celle qui est devenue au fur et à mesure la mère de Yitzhak. C'est pour ça que la mort, elle est liée de Sarah, elle est liée à la Akeda de Yitzhak. Il dit, c'est ça. À ce moment-là, elle devenait Yeshetraïl. Parce qu'elle a 8-5, c'est là qu'elle peut devenir Eshet Ra'il. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.